Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité.
A-A-U. Ce dernier podcast est l'occasion de suivre les réactions et les questionnements des participants au troisième séminaire du projet ANR Sensibilia.
J'aimerais qu'on puisse ouvrir un temps qui soit à la fois une discussion de la proposition de Julie et Pascal, de celle que tu viens de faire. On va avoir un temps plus informel et pendant le repas, peut-être un petit peu après en fonction des heures de départ de chacune et de chacun. Mais on n'a pas de temps comme on avait eu dans les autres séminaires où on se retrouve tous ensemble pour rebrasser un peu les matières et puis les entrevoir depuis nos perspectives qui sont aussi nos chantiers, etc. Donc juste avoir cette petite oreille ou cette attention que ce moment-là, c'est aussi un moment où on peut aller piocher ou s'appuyer sur des choses qui se sont dites hier. Et moi, pour lancer cette discussion, je ne vais pas poser de questions parce que visiblement, quand j'en pose, je m'embrouille. Je ne sais pas, peut-être que d'être plus proche au contraire. Non, mais par contre, j'ai l'impression moi, d'avoir entendu toutes les interventions depuis hier, ça m'a aidé à clarifier un contraste. C'est que, d'ailleurs, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans la danse, qui est le terme de laboratoire. On fait des laboratoires en danse, et puis on parle l'importance du laboratoire dans l'établissement, la construction machinique des vérités. Dans le monde qui est le nôtre. Et en vous écoutant, j'ai saisi ce mot qu'a proposé Emmanuel, qui était l'idée d'observatoire. Que la géobiologie puisse être un observatoire des constructions des cosmologies analogiques. Et au fond, j'ai l'impression que ce que tu viens de nous présenter, Nicolas, c'est aussi un observatoire. Et l'expérience que vous nous avez proposée, Pascal, et d'ailleurs Lisa Nelson elle-même utilise ce terme d'observatoire, mais que dans la discussion qu'on avait eue hier aussi entre le in vitro, le in situ, que les sciences sociales ont peut-être aussi un rôle dans la manière de faire importer ces observatoires-là et ce qui s'y invente. Alors est-ce que s'y inventent des chiasmes sensoriels et s'y inventent des nouvelles sensibilités, est-ce que s'y inventent des manières de peut-être d'abord de subir des ondes, puis petit à petit en les apprivoisant, d'arriver à ce que le corps ne soit pas qu'une victime mais devienne un allié pour faire reconnaître et pour faire etc. etc. Donc c'était une proposition, c'était d'entrevoir les différents temps qu'on avait partagés ensemble depuis ce contraste-là. Et avec la proposition que les observatoires sont peut-être un des endroits privilégiés où se négocie ce qui est ces sensibilités minoritaires et qui sont aussi des espaces à défendre et resterait encore en fait à porter la question de par quelle voie ça passe. Et peut-être juste pour préciser une chose, c'est que en vous entendant surtout le laboratoire, c'est un espace qui vient raréfier le monde et qui isole des paramètres, hein, on l'a bien vu. Et puis à l'inverse, c'est à la fois censé raréfier le monde, à la fois pour isoler des paramètres, faire surgir un phénomène, et puis en fait, il est incapable visiblement de se saisir de la logique de l'événement, de quelque chose qui surgit, et il s'en réfère toujours aux statistiques. Et je me dis, peut-être que... Pardon ? Ce serait pas toujours le cas.
Ça dépend des laboratoires.
Ça dépend des laboratoires, ouais.
Parce que sur laboratoire, parce que, à mon avis, ce qui est intéressant, par exemple dans les travaux de ma directrice de Stenger, c'est que, en fait, c'est juste que certains phénomènes sont des phénomènes qu'on arrive à transposer au laboratoire et d'autres pas. Et que, s'il y a une exigence que tout phénomène qu'on doit pouvoir étudier de manière scientifique, pour le dire de manière, ou rationnelle, parce que pour certains, comme la FIS, ce qui est rationnel, c'est ce qui est le laboratoire, tout le reste, c'est irrationnel. Du coup, ça veut dire qu'on exclut toute série de phénomènes de toute possibilité d'en parler. Mais en fait, si on réfléchit bien, les phénomènes de laboratoire, si on sort des sciences de laboratoire, même la biologie, c'est plus rationnel, quoi. C'est ça qui est très compliqué. Alors la sociologie, la psychologie, tout ça, on n'en parle même pas. L'économie non plus. Et donc, c'est qu'en fait, l'exigence d'équivaloir rationalité et laboratoire, elle est tellement énorme qu'en fait, on exclut la plupart des choses, même les pratiques de fabrication de savoir qui sont en dehors de... comme la sociologie, l'anthropologie, ça, c'est pas des sciences de laboratoire. Donc, si on dit que c'est irrationnel, on racle tout. Et donc la question, c'est que justement, comment on peut penser d'autres manières de penser les pratiques de fabrication de savoir en dehors des laboratoires, sans vouloir toujours les ramener à ça. Évidemment, alors, c'est un argument imparable, hein, celui de la FIS, c'est-à-dire que oui, non, c'est pas assez. Évidemment. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il ne... cet argument de « c'est pas assez », ils vont l'opposer à ceux qui veulent bien. Enfin, notamment, par exemple, les psychologues, ils ne reposent pas, parce que ça les intéresse pas. Bon. Et donc, observatoire, évidemment, c'est peut-être une proposition intéressante à explorer de ce point de vue-là.
Ouais. Moi, c'est pour rebondir, en fait, j'ai perçu à quel point cette question de l'ontologie et de la définition de l'existant, en fait, elle était intriquée dans des rapports de pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ce qui était un peu sous-jacent à cette question du minoritaire et du majoritaire, etc., dans la conception de cette journée. Et à quel point, finalement, dire que quelque chose n'existe pas, ça permet de s'en débarrasser, de s'en débarrasser dans le débat public et dans la manière dont on va l'inclure dans la communauté, en fait. Et du coup, c'est vrai que... faire de ces problématiques de sensibilité uniquement des questions ontologiques, finalement on manque peut-être cette dimension rapport de pouvoir, mais peut-être que c'est, enfin voilà, sans vouloir ramener des enjeux critiques de manière surplombante et abrupte, il me semble que c'est un peu l'objet de comprendre aussi comment le spectre de la sensibilité peut être gouverné par aussi des enjeux de rapport de pouvoir.
C'est fort différent comme expérience de tenir un micro. Ça marche ? Non, juste pour recycler ce que Jérémy disait sur le fait que dans le travail de Lisa Nelson, au lieu de, enfin, dans les termes qu'elle utilise, ces contextes pédagogiques, elle les appelle des laboratoires. Et vraiment, je pense en référence aux scientifiques, quoi. Et il y a deux postulats qui sont très vite posés au centre, d'une sorte de règle de jeu, qui en est une qui serait de cultiver une posture de non-savoir, et une autre qui est « je suis mon propre terrain d'expérimentation, je suis le rat de laboratoire ». Quoi. Et c'est de ces deux endroits-là que l'expérience va se dérouler. Et donc, elle est en dialogue avec ce terme de laboratoire. Il y en a un autre qui est donc l'observatoire, comme le disait Jérémy, qui là ramène du coup la question à une échelle beaucoup plus du pluriel, du faire ensemble, où le laboratoire est beaucoup plus des enquêtes individuelles, où il va y avoir la possibilité d'identifier ses propres grilles, de comment on se pilote soi-même, quoi, comment sa sensorialité, son activité se pilote. Et donc l'observatoire, c'est plus un espace là où finalement qui ressemblerait un peu plus à l'échelle du quotidien, qui est à plusieurs, comment ça fonctionne. Et effectivement, dans ces contextes-là, tous les rapports de pouvoir sont en jeu, qui sont liés aussi à des organisations culturelles. Et la question qui est au centre, qui est donc ça, c'est des observations qui sont plutôt assez tues, finalement, qui, dans les pratiques d'observatoire menées par Lisa Nelson, c'est assez tu, donc ça reste quand même, ça agit énormément par l'action, mais c'est très peu verbalisé. Et ce qui est la question commune à nous tous, qui elle est explicite, c'est qu'est-ce que ça fabrique ? Qu'est-ce que, voilà, au niveau du pluriel, qu'est-ce que ça peut fabriquer ? Avec une question sous-jacente qui pourrait questionner un peu aussi l'idéalisation d'un monde, quoi. L'idéalisation, pas d'un monde, pardon, l'idéalisation d'un groupe.
C'était un petit peu dans le sens de ce que demandait Claire. Moi, ma question s'adresse plutôt à toi, du coup. Dans les exemples que tu nous as montrés, les deux personnes hypersensibles, c'est des femmes. Les scientifiques sont tous des hommes. Et je me demande à quel point la question du genre traverse celle de l'électrosensibilité.
Et donc, moi, j'ai aussi rencontré... Donc, effectivement, c'est... Enfin, disons qu'elle la traverse, effectivement, je pense, hein, de manière... Mais elle ne traverse pas que cette question-là. C'est dans les questions de maladies en général. C'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a plein de maladies non reconnues ou qui ont mis du temps à être reconnues, ou de pathologies qui ont mis du temps à être reconnues, qui étaient très genrées. La fibromyalgie... l'endométriose, voilà, exactement. Toutes des pathologies. Mais donc, par exemple, la sensibilité chimique multiple aussi, le syndrome des bâtiments malsains, ça concernait aussi beaucoup des personnes féminines, parce que dans des rôles de travail secrétariat, etc., donc moins reconnus ou moins accessibles aux femmes, enfin, plus accessibles aux femmes parce qu'on leur interdit de pouvoir, etc. Donc c'est, dans les questions de maladie en général, il y a cette question du genre qui est très présente en fait, dans ce qu'on observe. Et donc c'est un des endroits où effectivement la question du pouvoir se joue. Mais alors, enfin, voilà. Donc pour la question du pouvoir, je dirais ça. Je dirais effectivement, elle est complètement traversée par cette question du genre. Elle est complètement traversée par la question. Enfin, et donc, c'est intéressant de voir dans le laboratoire comment est-ce que cette question du pouvoir se traduit aussi dans une expérience de laboratoire. Donc je pense à une expérience dont j'ai parlé hier soir un peu parce qu'elle me fascine. C'est le même James Rubin. En fait, il se dit. Il se dit, on a fait des expériences en double aveugle avec une série de gens, mais on va les rappeler 6 mois plus tard pour voir comment est-ce que l'effet d'annonce de l'échec de la maladie, de l'échec de la réussite du test statistique, a modifié ce que les gens pensent de leur maladie. Donc on prend les gens, on leur fait faire le test, on leur dit, voilà, vous avez raté, hein, donc clairement vous n'êtes pas capable de détecter des ondes et tout ça, merci, au revoir, on les renvoie chez eux. Et puis 6 mois après, on les appelle, on dit alors toujours électrosensible. Non mais c'est ça, en gros c'est ça. J'exagère un peu pour l'effet du mot. C'est mon côté belge. Hein. C'est la première conférence que je fais en chaussettes. Donc, du coup, et c'est intéressant. Et dit en fait, c'est dans la logique de Rubin, c'est pour montrer. Ça m'étonne vraiment très fort qu'il faille montrer ça. Mais il dit, on va montrer que la vérité ne soigne pas les gens. Sous-entendu, la psychologie, elle les soigne. Hein. Donc c'est toujours pour montrer que les thérapies cognitivo-comportementales sont plus efficaces qu'autre chose. D'accord ? Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, il construit ce que c'est qu'une vérité. Parce que c'est à lui qu'appartient le pouvoir de déterminer le sens de l'expérience qui a été faite. C'est-à-dire de dire, voilà, statistiquement, vous n'arrivez pas, donc... Vous avez raté, donc l'électrosensibilité. Enfin, vous ne souffrez pas d'électrosensibilité. Et sous-entendu, d'ailleurs, elle n'existe pas, mais vous ne souffrez pas de ça. Mais c'est un rapport de pouvoir énorme, parce que c'est lui qui détermine le sens de l'expérience, ce que ça veut dire d'avoir raté le test, etc. Et il dit, et les gens n'entendent pas la vérité de ce qu'on leur dit. Mais effectivement, mais on ne leur demande jamais aux gens, mais en fait, quel est le sens de l'expérience pour vous ? Qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir raté ? Quelles sont les raisons qui seront les bonnes pour vous, etc. Donc c'est un rapport de pouvoir énorme, évidemment. Aussi au sein du laboratoire. Parce que le sens de l'expérience, il appartient à celui qui l'a conçu et qui la détermine. Et donc quand vous demandez aux gens, en fait, pourquoi l'expérience n'a pas fonctionné à leur sens. Ils ont évidemment plein de raisons à faire valoir. Donc ça, c'est... Ouais, donc ça, c'est une question de pouvoir, à mon avis aussi, qui se traduit là. Mais après, il y en a plein d'autres, hein, à tous les niveaux, en fait. Mais par contre, pour la question de l'ontologie, je voulais juste rebondir encore deux minutes. Parce que, à mon avis, ce qui est intéressant et ce qui est problématique, c'est que, là, il faudrait amener des sociologues, des anthropologues et tout ça à la rescousse pour que ce que je dise ait l'air sérieux, mais c'est qu'en fait, quand on parle d'ontologie, on n'a qu'un seul mode d'être. C'est-à-dire qu'on dit, ça existe ou ça n'existe pas. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire exister ? Ça veut dire exister comme un électron dans un détecteur d'électrons. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est là où, par exemple, que je disais hier, Descola ne me semble pas forcément être le plus fort à ce niveau-là. Il faudrait peut-être aller voir du côté de Bruno Latour, même si, dans l'enquête sur les modes d'existence, parce qu'il dit même nous, même les modernes, naturalistes, tout ce que vous voulez, on a plusieurs modes d'existence. Quand on dit que, je sais pas, un élément, par exemple, de fiction, dit Madame Bovary, existe, elle existe sur un certain mode, qui est un mode de fiction. Et ça, on est capable de l'accepter. Et on dit, alors les gens qui parlent de divinité et tout ça, ils disent que si Dieu existe, il n'existe pas comme un électron. Il existe autrement. D'accord ? Et donc il y a plein de choses peut-être qu'on accepte d'exister, enfin, à qui on attribue une existence, et qui n'est pas forcément celle de l'existant en tant qu'objet de laboratoire. Si je dis que des forces sociales existent, elles n'existent pas comme un objet de laboratoire. Donc, en fait, il faut pluraliser l'ontologie, et en fait, on le fait déjà. Donc, il faut se rendre compte de la pluralité des ontologies. Et le rapport de pouvoir qui se joue là, pour le coup, de la FIS, c'est de dire, si ça n'existe pas sur le mode du laboratoire, ça n'existe pas tout court. Et donc, de tout ramener à un seul mode d'existence, ou à une seule forme d'ontologie. Et ça, c'est capital. En anthropologie, c'est capital aussi, je pense. Hein. Et donc, si on n'arrive pas à faire pluraliser et qu'on veut toujours dire « ça existe, ça existe, ça existe, ça existe », ce que font aussi, d'ailleurs, hein, les militants, pour le coup. Donc, faudrait... Mais du coup, c'est une discussion aussi que moi, j'ai eue avec des militants aussi. C'est-à-dire, justement, exister pour une maladie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la même chose qu'exister pour un électron. Mais c'est pas la même chose pour une force sociale, c'est pas la même chose pour une faille géobiologique, c'est pas la même chose pour... voilà. Pour des gens qui veulent faire exister des êtres. Voilà, c'est que les êtres, ils existent aussi dans des dispositifs. Bref.
Le trou de la sécu. Le
trou de la sécu, c'est ça, la liste.
Oui, non, moi je voulais réagir juste par peut-être la succession de nos interventions. Enfin, me ramène au fait que la sensorialité dans le milieu de la danse est toujours présentée comme positive. Il y a toujours cette idée qu'il faut toujours davantage développer la sensorialité, l'affiner, multiplier, diversifier les canaux, etc. Et voilà, je trouve assez drôle, voilà, en t'entendant après, ça renvoie à cette... Et c'est jamais mis en question, en fait. C'est jamais mis en question, mais qu'est-ce qu'on fait de ça quand on sort d'un studio avec une sensorialité super ouverte et qu'on pénètre dans un environnement citadin hyper hostile. Et comment on se réajuste en fait en tant que sujet dans ces environnements quand on a cette... Et ça, c'est rarement questionné, à part chez les artistes qui justement, Elisa Nelson en fait partie, entrent et sortent du studio et donc ne réservent pas le laboratoire à un espace préservé... des interactions sociales, des environnements sonores éventuellement violents, etc. Mais voilà, je trouve que ça vient aussi... je trouve d'un côté, il y a vraiment cette idée d'une sensorialité qui est forcément valorisée dans l'éducation, le développement de l'enfant, et puis toutes les pratiques artistiques. Et puis de l'autre, voilà, des maladies de la sensorialité, en fait. Et je trouve que voilà, c'est... Je sais pas comment... comment on peut travailler avec ça. Mais en tout cas, ça pose aussi la question, je trouve, du point de vue des artistes, comment ils accompagnent, enfin voilà, qu'est-ce qui, quand ils offrent quelque chose, une expérimentation à quelqu'un qui vient, qui débarque juste pour passer une heure avec un artiste ou avec un projet, c'est quoi cet accompagnement, comment on en sort, comment on accompagne la transition vers autre chose et l'effet de cette expérimentation dans la vie de quelqu'un. Hier, Martin parlait de ça, de comment il souhaitait aussi analyser la question de l'énergie dans la vie quotidienne de ces praticiens de Qigong. Et je trouve que c'est une enquête très ambitieuse, mais super intéressante, effectivement. Qu'est-ce qui modifie aussi nos coordinations perceptives dans le quotidien quand on a traversé ces... quand on a eu la possibilité de traverser différentes expérimentations. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse là, mais je mets juste un peu ce problème au centre. En tout cas, dans la recherche, dans les études en danse, je dirais que on est, par rapport à ces questions de sensorialité, on est... je trouve qu'on est dans un moment où on doit passer vraiment une autre étape. Hein, c'est-à-dire que je sens que ça fait 20 ans que... on valorise le fait qu'il y a des savoir-sentir en danse, comme si il y avait eu besoin par rapport aux autres disciplines de faire comprendre que là se passait quelque chose de très spécial lié au sentir. Donc il y a une sorte comme ça de discours assez militant pour mettre ça en avant. Et je sens maintenant qu'on doit vraiment passer à une étape de dire, mais concrètement, c'est arrêter de parler d'une sensorialité, mais de vraiment pouvoir nommer concrètement les différentes formes qui sont en fait extrêmement variés selon les artistes, selon les pratiques, et qu'on est vraiment à un moment où on a la nécessité de faire des études de cas très précises, d'analyser les cadres de conduite, de construction de ces sensibilités, de distinguer justement ce qui est de l'ordre de l'individuel et d'une construction collective. Je sens qu'on en est un peu là dans la recherche en danse aujourd'hui. Ça a commencé, hein, j'exagère un peu, il y a aussi tous les travaux plutôt en pratique somatique, donc ils sont intéressés à une technique je trouve qu'en tout cas on peut plus se contenter aujourd'hui de juste dire la danse, la sensorialité, c'est super, enfin, voilà, c'est un discours que j'arrive plus à entendre, quoi. Je trouve qu'on a... Et de vous entendre, ça, je trouve que ça remotive tout un, peut-être des protocoles de travail plus précis, d'observation de ce qui se passe réellement dans le travail du danseur en studio.
Oui, c'est ce problème que tu pointes, je l'ai aussi découvert, notamment avec le travail, en travaillant avec un artiste qui est... déjà parlé, mais qui est devenu électrosensible en essayant de développer une sensibilité. Et moi, du coup, je débarque un peu dans ce milieu-là. Moi, j'étais pas du tout connecté aux pratiques de mouvement et tout ça avant, il y a 4-5 ans. Et en fait, pour moi, ça rejoue, et c'est une question qui lie plusieurs communications, ça rejoue aussi une espèce d'horizon. On parlait hier d'absolu avec cette recherche de décrire toutes les ondes, tout le spectre des couleurs, là, Julie, la personne que vous avez présentée, l'élève très impressionnant. Donc il y a une espèce d'horizon, comme l'horizon d'un progrès, ou un espèce de manière où l'intention, elle bifurque. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur son expérience. Tout à l'heure, tu disais, ça m'aide à mieux vivre, ou ça m'aide à mieux, je ne sais plus exactement ce que tu as dit, à mieux me piloter au quotidien. Et puis à un moment, on se fait attraper par une espèce d'horizon, où on a l'impression de toucher une forme de vérité où on emprunte un chemin comme ça qui nous aspire. Enfin, moi, je me demande, il y a un truc de l'ordre de la motivation à cet endroit-là, de que ça change, quoi. Il y a un truc qui on a l'impression de toucher une frontière ou de toucher quelque chose qui est presque mystique, quoi, qui est presque de l'ordre de l'essentiel. On parlait ce matin des efforts qui sont faits pour photographier un trou noir avec un réseau de télescopes sur Terre, etc., etc. J'ai l'impression qu'à l'endroit de notre corps, on retouche ça, et qu'on est très fort pour pointer des chercheuses et des chercheurs qui tombent dans cet écueil et qui vont dans cette direction-là en science, et qu'on peut-être on ne peut pas, enfin je dis bon, je ne peux pas avoir une partie de ça, mais c'est plus difficile de le regarder à cet endroit, enfin, il y a une excitation qui est très intime, quoi. Je ne sais pas, c'est très bizarre comme formulation, je ne sais pas. Mais bon, tiens, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup cette question.
Merci Pascal. Je trouve qu'il y a une série de questions qui me parlent beaucoup. Voilà, je ne connais pas du tout le milieu de la danse. mais je trouve que ça résonne complètement avec des expériences notamment faites avec des personnes qui ne sont pas en géobiologie, mais où ça m'était arrivé en Belgique de les amener voir un arbre à clous, et où les personnes ont des manières très différentes de se positionner, certaines pouvant sentir mais souhaitant...
C'est quoi, ouais,
un arbre à clous, c'est un peu un arbre où tu vas décharger ton mal, donc tu frottes un clou sur une zone malade du corps, et ensuite, par le clou, tu le plantes dans l'arbre. Et c'est très vivace en Belgique, notamment. Et donc, il y a une même personne qui a une série de trois questions à qui vraiment l'exercice ne lui semblait pas du tout évident. D'abord, elle disait, mais j'aurais peur d'être handicapé. Si je me lance dans l'exercice et que je ne sens pas, alors ça va changer ma position dans le groupe et je vais me sentir comme toi, perdant une part un peu de... Enfin, d'humanité à cet endroit-là, quoi, devenant un peu moins que les autres. Après, il y a une deuxième question qui était de dire, mais si jamais j'y vais, effectivement, l'ouverture, mais alors, ça va être tout le temps, quoi. Qu'est-ce que je vais en faire? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je vais en faire quoi de cette ouverture? Et c'était pas du tout... c'était pas évident, en fait, de s'engager dans ce chemin-là. Et ça, je trouve que c'est aussi une question qui nous renvoie au fait que on individualise énormément la question de la sensibilité et on n'imagine pas forcément que ce soit un groupe qui puisse jouer de ces différentes modalités de sentir et qu'on n'a pas besoin de les acquérir pour soi toutes, mais que finalement on aurait plutôt intérêt effectivement à avoir des nouveaux collectifs de sensibilité qui soient dans l'écoute de ce que l'autre amène en disant bah, tiens là si lui il sent ça, effectivement, on ne va pas se faire une série statistique. C'est qu'il doit être sur quand même le, voilà, un endroit qui commence à résonner. Et il y avait une troisième question, qui est la réaction que tu viens d'avoir, qui était une question éthique, en disant, mais en fait, donc, ces sensibilités, ces ouvertures, ce geste de venir se décharger d'un mal dans un autre étang, comme ça, dans un autre... dans un arbre, ça lui était pas du tout non plus évident, et alors la proposition n'était pas celle-là, hein. Mais du coup ça ouvrait une question vraiment de, parce qu'on pourrait la retrouver ailleurs, en se disant on va faire du qigong, ou on va venir faire de la, je sais pas, des bains de forêt, ou on va venir se décharger, quoi, toujours dans cette idée que y a un grand réservoir de la nature qui va permettre de, voilà, de se délester, sans non plus imaginer des formes d'accordage, d'équilibrage, de justement de prendre à son tour une part pour venir soutenir quelque chose qui est déjà là. Et donc là, il y a toute une réciprocité aussi qui ouvre un monde. C'est-à-dire, en fait, quelle réciprocité imaginer et pas simplement trouver des lieux qui nous supportent le temps d'une pratique, mais d'arriver à soutenir ces lieux, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment encore... ouais, pour moi, ça rejoint tous les débats qu'on a sur le laboratoire, la physique, l'importance des sites. Qu'est-ce qui fait un site? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à être consacré comme tel pour telle pratique? Et là aussi, il y a une intelligence, je trouve, du rapport au lieu qui est... je pense qu'il est, qui profite énormément de tous les croisements de regards qu'on peut avoir, là, venant de la danse, de la géographie... toutes les pratiques sensibles.
Ah. On a un départ.
Ouais.
Un retour dans le monde expérimental de la gare.
Juste merci. Merci pour l'expérience de ce matin. Merci pour tout. Merci pour l'expérience de ce matin. Qui était effectivement une expérience de. Enfin, pour moi, qui était une expérience de coordination des sensations, du mixage des sens assez intéressant. Et finalement, juste pour revenir sur l'expérience et sur ta présentation, Nicolas, on est effectivement à l'aube de... Enfin, on est plus qu'à l'aube, non, c'est très avancé, mais on est vraiment en ce moment en Occident à un croisement où, un croisement de civilisation où on va essayer de repeupler un petit peu les sens, de les faire sortir du corps, de faire changer l'idée des limites du corps, en fait, c'est un petit peu ce que vous proposiez. Je ne peux pas revenir dessus, mais effectivement, tripoter une corde, ça peut être très rigolo. C'est assez minimaliste, mais ça emmène assez loin. Et donc, je m'étais dit, d'ailleurs, il y avait deux possibilités. Soit je devenais cordeau sensible, et je faisais la corde. Ça m'a beaucoup tenté, mais j'ai un peu mal au genou, puis je me suis déchiré un peu les muscles en faisant le serpent, le naga, il y a quelques semaines. Donc, j'y vais mollo. Et puis finalement, donc j'ai opté pour la possibilité, enfin voilà, de faire jouer la corde comme un instrument de résonance, quoi, quelque part, et donc de faire que la corde soit mon lien avec tout le monde, quoi. Mmh. Et voilà, c'était ma manière de faire de la synesthésie, on va dire, ce matin. Voilà, donc je ferai attention de ne pas jouer avec les cordes dans le train, de ne pas devenir corde sensible. Et je vous remercie, puis j'espère vous rencontrer les uns et les autres collectivement très bientôt.
Merci.
Ciao.
Bonne route.
Bye.
Ciao. Bon tour.
Cette question des collectifs, elle est. Y a plusieurs choses. D'une part, quand on a rencontré là, des géobiologues, quand on a rencontré des guérisseurs. Mais ça m'est déjà arrivé aussi en rencontrant des ostéopathes, donc des gens qui ont l'air d'avoir une activité plus laïque, entre guillemets. C'est qu'il y a.
Laïque.
Oui.
Laïque.
Je ne connais pas. Non, de laïcité, mais c'était.
Laïque.
Laïque. C'est une activité laïque. C'est very laïque. Non, laïque au sens de, ils ont l'air d'être moins concernés par, a priori, par des choses aussi étranges que des entités, des cheminées cosmotelluriques. Et en fait, souvent, on a remarqué qu'il y a aussi un phasage qui est qu'il y a un temps d'ouverture des sensorialités. Soit ça te tombe dessus, et c'est un peu souvent le cas des électrosensibles, soit c'est hyper travaillé, cultivé, et ça va faire l'objet d'une formation, ça va faire. Mais il y a souvent un moment de débordement, en tout cas, qui est, il y a un temps où ça y est, ça s'est ouvert, et c'est là, et je soigne des gens, et en fait, je vais au supermarché, et j'ai mal à la tête tout le temps, parce que je suis devenu juste une espèce d'éponge poreuse, et c'est insupportable. Et puis, dans le processus d'apprentissage et de sculpture là, des sens, il y a un moment où on apprend à refermer aussi, visiblement, et à pouvoir contrôler le niveau de porosité, d'ouverture. Et ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est dans les cas, je pense notamment aux travaux de Nicolas Shapiro sur les chimio-sensibles, la force du collectif pour donner des supports à des expériences étranges, à des troubles, à ce qui ressemble à des symptômes, des maladies, mais comme ça, très, très, très disparates. Et pour transformer ces troubles, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en quelque chose dont on est non plus seulement les victimes, mais on va aller s'appuyer dessus, on va cultiver au contraire cette sensorialité pour soi-même apprendre à se couper de ses ressentis à des moments. C'est le cas c'est le cas de certains électrosensibles aussi qui disent passer un certain cap, maintenant j'arrive à me fermer à ces ondes qui me font du mal dans certaines circonstances, pour peu que la dose soit pas trop forte, pas trop longue. Et ou sinon de cultiver ces sensorialités qui à la base dont les personnes étaient plutôt victimes, pour devenir des personnes ressources pour la communauté. Et Nicolas Shapiro, il documente comme ça chez les chimiosensibles une femme qui se fait appeler le compteur Gégère par les autres, parce qu'elle a une sensibilité au cœur de la main, et elle est capable de donner, alors je ne me rappelle plus, là, elle mesure des produits chimiques comme le formaldéhyde, des choses comme ça, et elle est capable de donner des dosages très très fins. Et donc c'est devenu vraiment une personne ressource, c'est devenu un capteur, quoi, pour la communauté. Voilà, donc tout c'est la manière dont les collectifs créent des supports pour des espèces de sensorialités qui sont un peu troubles. Et quand même, C'est le cas, par exemple, pour les pratiques somatiques, dont c'est un peu le cœur de métier, quoi, d'avoir développé des sensorialités. Elles se sont quasiment toutes constituées de manière très collective, même s'il y a un nom au final qui remporte la mise. Mais on rencontre parcimonieusement comme ça des personnes qui développent des espèces de pratiques somatiques sauvages et qui sont tout à coup qui se rendent capables de choses complètement folles. Par exemple, des aveugles qui spontanément vont se mettre à développer un sens de l'écolocalisation hyper précis, hyper pointu. Des fois beaucoup plus pointu que des collectifs justement qui se sont donc cette capacité à pouvoir créer du voir à partir d'un son avec les systèmes de l'écho. Bon, voilà, donc ça reste aussi un endroit pour moi de mystère et d'énigme, qui est que j'ai l'impression que le collectif fait toujours support et puis il y a toujours des espèces de grosses exceptions et qui serait intéressant peut-être à aller... Enfin, moi, que ça m'intéresserait de creuser et de documenter ces exceptions.
Non, moi, c'était juste une remarque un peu par rapport à ces questions de valorisation des sensibilités et la question du contrôle ou pas, de possibilité de fermeture ou pas des sens. En vous écoutant, comme ça, ça m'a rappelé tout d'un coup que dans les pratiques de Qigong, il y a quand même un refrain qui est de ne pas se perdre dans les sens, quelque chose qui revient quand même assez fréquemment, mais aussi parce que toute l'histoire un peu qui se raconte derrière, c'est que dans beaucoup de textes chinois, le Qigong est toujours associé aux possibilités de maladie mentale, de la folie, et qu'en fait un excès de pratique ou une pratique qui est mal contrôlée dans sa proposition, donc sous-entendu qui n'est pas encadré par un maître, etc., etc., il y a de ça aussi. Mais il y a ce refrain de se dire qu'en fait, si on pratique trop et que c'est pas contrôlé, etc., on peut devenir fou. Et la folie, en fait, c'est le moment où, en quelque sorte, la pratique qui se veut être une pratique d'ouverture, aussi des sens et ouverture à l'environnement, devient finalement un espèce de circuit clos, quelque chose qui tourne en fait à l'intérieur de lui-même et qui en fait perd justement sa capacité à être en interaction avec le monde, mais finit par tourner en boucle, quoi. Et ça, c'est systématiquement pointé comme une espèce de d'écueil en fait de ces pratiques, ce qui fait qu'en fait il y a quand même une différence, j'ai l'impression, dans nous, notre manière de le recevoir et peut-être de l'étudier aussi. Ça me fait penser par rapport à ce que tu disais, Julie. Moi, venant aussi de la recherche en danse et ayant disons que ce qui m'a d'abord amené vers les pratiques de Qigong, c'était les sensorialités qui étaient développées dedans, et c'est ça qui m'a intéressé. Et en fait, je me rends compte que mon horizon, mon horizon d'attente, moi, dans cette pratique, il était aussi très différent finalement des risques qui étaient nommés aussi par la tradition, par certains maîtres à un certain endroit. Parce que moi, justement, c'est cette ouverture sensorielle qui me paraissait intéressante, là où eux, en fait, ils voyaient des capacités de soins, ou d'auto-soins, ou de soins des autres, mais pas directement, ou pas principalement, une capacité de sentir. C'était pas ça, en fait. Le sentir, c'était même une espèce de... Faut pas s'y accrocher, quoi. Faut pas s'y accrocher, et en même temps, j'ai l'impression qu'ici, des fois, on a une espèce d'euphorie du sentir, quoi. C'est, ah, enfin, on sent... Et puis peu importe ce qu'on en fait, mais en tout cas on sent des trucs et ça paraît déjà fou. Et là-bas, c'est plutôt un usage finalement de la technique pour du soin ou pour de l'auto-soin qui est valorisé, mais surtout pas en fait, le sentir lui-même, qui quand il devient une quête autonome en fait, devient ce vide aussi. Ouais.
Mais je vous renvoie au texte que Pascal a... Ah bon, voilà.
J'ai vu la même entrée que toi. Du coup, avec Julie, on vous a proposé on a mis au centre un texte que Bonnie Bainbridge Cohen, la fondatrice du Body Mind Centering, qui est une pratique somatique, qui déploie dans un interview avec Nancy Starr-Smith, une des pionnières du contact improvisation, les nuances autour de sentir, ressentir et agir. Et donc, donc elle est pédagogue, hein, elle fait de la recherche, mais elle est pédagogue aussi. Et elle dit, une de mes activités en tant que pédagogue, c'est de proposer un contexte où le pratiquant va pouvoir saisir la différence entre aborder une chose avec un état de dissocier l'état d'esprit avec lequel on aborde la chose de l'état d'esprit de la chose elle-même. Et elle disait, bah, si finalement je touche une corde avec un état d'esprit et que je déplace cet autre état d'esprit en touchant un arbre, est-ce que je ne vais pas finalement avoir la même expérience, quoi. Et donc elle disait, toute mon activité, c'est de donner, d'outiller pour essayer d'approcher la chose avec l'état d'esprit de la chose elle-même plutôt que de toujours trimballer notre propre état d'esprit. Et elle prend un autre exemple par rapport au... Enfin, c'est dit différemment, mais ça tourne autour de ce que tu développes. Elle prend l'exemple de l'œil par rapport au sentir. Elle dit, l'œil, il a été appareillé pas pour être senti, pas pour être... où je pose mon attention dessus et j'observe comment il fonctionne et tout ça, même si on le fait pour sentir la musculature, comment la musculature pourrait être coordonnée à la colonne vertébrale, etc., développer une certaine expertise. Mais elle dit, il a été fabriqué, il est fabriqué pour percevoir. Et donc, elle dissocie, excuse-moi, je fais un... C'est pas, je m'entraîne à faire des récits, je n'ai pas beaucoup d'habileté à ça, donc... Vous allez faire l'expérience d'une pensée de dyslexie qui fait comme ça pour un... Et donc, elle nomme, et Jérémy pourra faire un résumé s'il veut, elle nomme l'activité de ressentir très clairement, de sentir très clairement comme étant le système nerveux qui se met en marche, et du coup, le système nerveux, c'est une activité qui est lente. Et elle met en contrepoint le système, et c'est la conscience, et elle met en contrepoint le système des fluides, qui est plutôt une cadence assez rapide, et qui est celle de l'agir, et qui porte plutôt l'inconscient. Et donc, entre ce va-et-vient, elle prend l'exemple d'un groupe aussi, qui n'aurait pas du tout l'habitude de sentir, qu'on leur demande de courir dans un espace assez restreint, c'est sûr qu'ils vont se cogner par rapport à un groupe qui a déjà développé des habiletés de sentir, qui eux peuvent ne plus passer par le sentir et qui peuvent dans le flux directement agir. Et du coup ça fait penser à cette chose de quand est-ce que le sentir est en support et l'agir est au devant, plus comme un sujet et vice versa, et toute cette habileté en fait, de faire bouger ce curseur et que l'un fonctionne avec l'autre. Voilà. Heureux.
C'est clair. Ça très clair.
Bravo. Bonnie, de ZNIBE, Brain Bridge.
Brain Bridge.
Ça, super.
Ouais.
Pont du cerveau.
Le pont du cerveau, mais c'est juste le pont du Brain.
Et peut-être je voulais juste rebondir par rapport aussi à l'endroit de ce sujet support là, quand tu dis que les collectivités sont un support certainement d'intégration par rapport à un individu qui développerait une spécificité. Dans le travail avec le Tuning Score, ce qui m'a fasciné, c'est que d'un seul coup, le collectivité n'est plus le support de l'expérience, mais il devient le sujet. Et donc là, ça pose un autre enjeu, et notamment à l'endroit de l'idéalisation d'un groupe. Et le Tuning Score, c'est littéralement, c'est partition d'accordage. Et voilà, l'accordage des sensorialités, des spécificités de chacun. Et finalement, plus je pratique cette partition, plus je me rends compte que je développe des habiletés à survivre au désaccordage. Finalement, au fait que nos sensibilités n'arrivent pas à s'accorder. Et à trouver, du coup, à développer, là, ça c'est très spécifique par rapport à mon expérience, Mais quand je dis j'arrive à survivre, c'est-à-dire que j'arrive à développer un état de tranquillité qui ne me met pas finalement en survie, quoi. Donc par rapport à des sensorialités dont je ne sais pas de quoi la personne fait l'expérience, et pourtant ça a des conséquences sur l'environnement, comment ne pas développer soit des pensées de rapport de domination, enfin, déconstruire certaines grilles de lecture pour simplement aussi être plus tranquille. Donc c'est vrai que souvent, entre collègues, on ne savait pas comment nommer, mais on disait « Ah putain, mais en fait, ça développe des habiletés de love ». Voilà, alors c'est peut-être une autre manière de parler un peu du care. Et on se dit « Mais pourquoi, c'est quoi qui fabrique ça ?» Le fait qu'en fait, on quitte les enjeux de compétition, de rapport dominant-dominé. Dans l'ensemble, là, un contexte pour pouvoir essayer d'identifier un petit peu qu'est-ce qui fabriquait ce contexte plus bienveillant, voilà, on a commencé à mettre en commun, donc par rapport à le collectif comme sujet plutôt qu'en support, qu'est-ce qui de rendre explicite toute une autogestion, c'est-à-dire de tout ce qui se passe en interne, de pouvoir s'outiller et d'avoir des contextes, puisqu'on quand même, on est là pour pratiquer des pratiques de danse, pas spécialement pour trop discuter, voilà. Mais ces pratiques de danse sont ponctuées de contextes qui sont emprunts plutôt aux intelligences collectives, qui ont, voilà, la gouvernance partagée, qui ont développé des faire ensemble qui permettent finalement j'aime bien ce, comme dans les bipades comme ça, où de zoomer sur les gestions de conflits, tout ce qui reste implicite dans une vie de collective. Voilà. Alors elles ont des titrages, après il y a des pratiques pour déconstruire ça, comme la pratique du merci, la pratique de l'écoute active, qui d'un seul coup va permettre de faire un retour sur l'expérience vécue individuellement, mais à l'échelle collective.
Non, enfin, Emila, parce qu'il y a un auteur qui m'intéresse beaucoup aussi, parce qu'il est très problématique, donc c'est Toby Nathan, l'ethno-psychiatre. Et il y a une des choses, enfin, parce que donc on parle d'être, alors on parle d'être ontologique, on rencontre dans des dispositifs et tout ça, mais en fait, lui, il lit aussi les êtres ou les forces qu'on rencontre à la fabrication de collectifs. Donc, je trouve ça. Enfin, donc la phrase qui est là ici, que j'ai mis là, c'est un extrait. Mais, donc, il dit donc les rites de possession de Dionysos en Grèce antique, le culte des arts en Éthiopie, les cultes semblables qu'on peut rencontrer en Afrique, tout ça, sont d'une certaine façon une organisation de groupes d'usagers. Et il dit mais groupe d'usagers, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut entendre le terme usager dans le sens d'une personne qui recourt à une force, dont l'accès n'est possible que dans un groupe, donc d'une association. Et cette association a pour tâche principale d'identifier la force, donc la nommer, dire qui elle est, etc. Hein, c'est Dionysos, c'est un djinn de tel type, etc. L'exploration des spécificités, mais aussi la mise en œuvre des modalités de son contrôle. Et donc ça, je crois que c'est assez beau comme manière de présenter ce que ça peut bien vouloir dire, parce que ça veut dire qu'on rencontre des êtres, des forces, etc., dans des dispositifs. Mais en fait, on a besoin de collectifs aussi. Alors, le contraste qu'il fait dans d'autres... Donc ça, c'est dans L'étranger ou Le pari de l'autre. Et il dit, mais en fait, le problème, c'est que nous, les Occidentaux, les Blancs, ce que vous voulez, c'est on est n'importe qui, en fait. Oui, je crois qu'il utilise l'expression « quiconque ». Il dit, en fait, ça doit être valable pour tout le monde, tout le temps. Sinon effectivement, parce que si je prends l'exemple du terme du groupe d'usagers qui peut avoir les modalités du contrôle, l'exploration des spécificités et tout ça, et que je dis, ben, par exemple, les physiciens... C'est-à-dire que seul celui qui a un doctorat en physique a le droit de parler de mécanique quantique et géobiologiste, ils n'ont pas le droit. On dit tout de suite, oh, rapport de force, scandale, parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de mécanique quantique. Tout ça. Donc c'est problématique. Parce que justement, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, instaurer un groupe d'usagers qui, lui, sait comment on contrôle, comment on s'adresse à une force, comment on, et qu'on va aller mobiliser si on a l'impression qu'on doit pouvoir rencontrer cette force. Et tout ça. Donc ça pose des problèmes, et Toby Nathan n'a pas raté, hein, il s'est fait attaquer, notamment par des psychanalystes, notamment Madame Roudinesco, parce qu'on lui reprochait de ne pas amener la vérité du sujet à lui-même en tant que libre, en tant que quiconque, hein, quiconque est libre à un inconscient, et il disait, ben, l'inconscient c'est une forme aussi, vous êtes des praticiens de l'inconscient, mais il y a plein d'autres praticiens de la psychiatrie qui passent par des tas d'autres dispositifs, des tas d'autres êtres qu'on rencontre, et tout ça, et la psychanalyste lui reprochait en disant, mais non, tout le monde a un inconscient, c'est pas un dispositif qu'on rencontre dans un, c'est pas un être qu'on rencontre dans un dispositif, celui de la cure par exemple, c'est un truc universel, c'est pour tout le monde. Et lui disait, mais non, c'est vous qui rencontrez ça, mais les autres gens, ils rencontrent plein d'autres types d'êtres. Il n'y a pas de raison de l'attribuer à tout le monde, comme si tout le monde était équivalent. Et les psychanalystes, c'est la seule manière de faire équivaloir les humains, c'est de dire qu'ils ont tout ça en inconscient, ce qui est problématique à mon avis. Mais, et lui, il disait, mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est à travers les groupes d'usagers qu'on rencontre ce type de choses. Et on a beaucoup de mal à penser ça. C'est-à-dire que des êtres seraient liés à des dispositifs d'une part, mais aussi à des groupes. C'est-à-dire que les groupes qui peuvent contrôler ces puissances qu'on rencontre.
Ce terme d'usager, il vient d'une idée particulière.
Il vient des collectifs d'usagers. Tu vois, par exemple, des usagers de drogue non repentis, usagers d'alcool, usagers de... Mais aussi des usagers, des entendeurs de voix, ils se considèrent comme des collectifs d'usagers aussi. Donc il y a un héritage comme ça, mais c'est vrai que c'est des... Enfin, c'est aussi parce que chez Toby Nathan, il raconte en ethnopsychiatrie aussi, si tu rencontres certains types d'êtres et tout ça dans ton sommeil la nuit et tout ça, on va te dire que t'es un sorcier. Donc on va te mettre dans un destin, hein. Enfin, clairement, c'est quand même, ça t'engage à quelque chose, quoi. Tout le monde n'est pas comme ça, c'est toi qui rencontres ça. Et donc il faut que tu sois transformé par le collectif de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles te former auprès de tel groupe et tout ça. Et c'est comme ça que tu arriveras à maîtriser la force avec laquelle tu es en contact. Tout ça. Et ça, je crois que c'est un beau modèle. Enfin, c'est une belle manière de penser aussi l'idée du collectif. Que tout, et c'est... Enfin, je continue un tout petit peu, mais du coup, moi, je trouve que ça rend très problématique. Enfin, justement, ceux qui veulent, du coup, par exemple, en géobiologie, je ne sais pas moi, mais par exemple, la vidéo qu'on voyait hier avec l'outil qui permet de mesurer et tout, avec les trucs... parce que ça rend très problématique ce genre de truc, parce que du coup, n'importe qui, sans formation et tout ça, pourrait vouloir s'emparer du truc. Sans savoir ce dont il est question, comment ça marche, tout ça. Alors que nous, enfin, c'est pour ça, hein, je sais pas, c'est... Enfin, nous, on est un peu des sauvages, quoi. Parce que justement, c'est un peu passé de mode. Hein, le mot que je vais utiliser, le mot individualisme, mais tu vois, c'est justement parce qu'on se pense comme des individus, des quiconques. Quiconque peut aller acheter de l'alcool dans un magasin et doit se débrouiller tout seul avec ce que ça veut dire comme rencontre, de la puissance que ça peut signifier, et tout ça. Et on vend des objets en disant mais quiconque va se débrouiller très très bien avec un téléphone portable et après on se tracassera des méfaits que ça a sur les jeunes, sur machin truc, hein, ou sur les femmes, sur le rapport de force, hein, sur toute catégorie qu'on voudra considérer comme étant faible, d'accord, dans un rapport de force scandaleux, tout ce que vous voulez, et alors on va s'en tracasser après. Mais on ne va pas instaurer c'est quoi les bons usages, etc. On va en donner à tout le monde, et puis après, on verra bien ce qu'on doit faire pour pallier à des problèmes. Ça, c'est comme ça que nous, on fait. C'est un manque total de civilisation.
Mais c'est dommage que Stéphane et Emmanuel n'aient pas entendu ça, parce que donc je vous renvoie aussi à l'entretien qu'ils ont partagé, qui est un entretien avec un S. Mais maintenant qu'on l'a nommé tout le long, on peut dire que c'est Stéphane Cardino. Et ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est que précisément Stéphane Cardino, qui est un peu dans une certaine logique là, de la géobiologie, il se positionne en décalage ou en rupture par rapport à tout un ensemble d'effets de modernisation, de nocivité, de pollution, etc. adopte finalement une attitude très moderniste à travers le rapport à la machine, parce que son rêve, c'est de designer la machine qui pourra satisfaire tout le monde et qui aura son autonomie dans le soin, dans le traitement, dans le... Donc,
il n'est pas exact... nommé, mais... non, mais j'avais lu l'entretien avant.
Donc et donc, il y a cette espèce de paradoxe
qui... C'est assez... C'est un croisement très, très fort entre des trucs très... justement, très traditionnels, enfin, dans lesquels on a encore des traditions de contrôle des êtres, etc. Et, enfin, je veux dire, qui existent dans plein de pays, donc, pour plein de pratiques, hein, même ici, enfin, chez nous, les coupeurs de feu, tout ça, c'est des gens qui savent bien, c'est une tradition, on s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit dans des groupes, on sait, les voyants aussi, mais avec un rêve moderniste, effectivement, c'est pour tout le monde, c'est l'usage libéré de toute contrainte, tout ça. Et on le voit souvent hein, dans des pratiques d'importation de trucs, enfin, qui marchent plus ou moins, mais qui sont toujours très étranges, où on essaye de faire exister des êtres très modernes dans des dispositifs complètement différents, ou de faire exister des chakras et de les expliquer avec la mécanique quantique. Ben, c'est là qu'on est, c'est quand on est justement dans cette de prise mutuelle. Parfois ça peut marcher, mais parfois on oublie les trucs. C'est pour ça que je disais hier aussi, le Qigong, l'énergie. Oui, mais l'énergie, est-ce que c'est l'énergie en tant qu'on la rencontre dans des dispositifs très particuliers, des traditions, etc. C'est pas l'énergie en général. Enfin, parce que cette pensée de l'énergie en général, c'est celle des physiciens, en dernière. On est en risque que ce soit toujours celle des physiciens qui doit prévaloir, et donc, alors ça ne veut plus rien dire. Mais de la faire exister autrement, sur d'autres modes, qu'est-ce que ça veut dire la rencontrer, etc.
C'était un peu le sens de la question que je n'ai pas réussi à poser. C'était ça la tentative que j'ai maladroitement faite. Mais j'aurais une question pour toi toujours, sur, puisque dans la machine, là,
ouais.
Je me demandais où elle en était cette machine et comment elle se recompose, par où elle expérimente, qu'est-ce qu'elle invente aujourd'hui, comment est-ce qu'elle continue à...
Dans les ondes.
Ouais, dans les ondes. Ouais, ce serait quoi ton sentiment, ou peut-être que c'est très établi pour toi, les endroits par où elle est en train de...
Non, mais donc c'est machinique, ça peut être vraiment, effectivement, on peut parler du Qigong, c'est machinique, comme la danse, des pratiques machiniques aussi. Enfin, donc pour moi, c'est pas, il n'y a pas la machine, mais c'est pour ça que je
te dis... Non, mais moi, je te pose la question sur les ondes.
Dans les ondes. Ouais. Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant, et c'est, ça résume pas tout, mais ce que je trouve qui est intéressant, par rapport à... Moi, j'ai fait mon terrain, c'était le moment du débat de la 4G, et donc c'était... Bon. Et il y avait cette question de la santé qui était vraiment très centrale, elle le reste à mon avis, mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est qu'aujourd'hui avec la 5G, il y a eu d'autres choses qui sont mélangées. Parce que la 5G, en fait, c'est pour la plupart des utilisateurs, en fait, on ne voit pas très bien l'intérêt en fait, technique. C'est-à-dire qu'entre 3 et 4, oui, entre 4 et 5, beaucoup moins. Et on ne voit pas tellement... Et en fait, parce que en fait, la 5G est principale. Enfin, ils essayent. Les industriels, en fait, ont beaucoup de mal à dire à quoi elle va servir. Mais par contre, en fait, elle va beaucoup servir aux industriels à faire des ponts 5G, des transferts de données beaucoup plus rapides, et à l'Internet des objets, et tout ça. Donc il y a beaucoup d'idées que ça va, en fait, permettre plutôt... Alors, ils disent des choses, et c'est très drôle, parce qu'il y a des exemples qu'on retrouve depuis la 3G, hein. Sauver des vies. Ça, c'est toujours bien de sauver des vies. Personne ne va dire que c'est mal. Dans les ambulances, pouvoir opérer en direct et tout. Mais en fait, ça fait 20 ans qu'on le dit. Donc ça n'existe pas. Ça n'a toujours pas lieu. Bref, c'est des mauvais exemples. Les voitures intelligentes, mais en fait, les voitures intelligentes, elles n'ont pas besoin de 5G parce que si elles sont hors réseau, tu as un accident de bagnole. Donc, en fait, il vaut mieux avoir des voitures intelligentes qui sont autonomes mais qui n'ont pas besoin de 5G. Donc il y a beaucoup de très mauvais exemples. Et du coup, par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'associations qui traitent d'autres sujets que la santé qui s'y sont mêlés. D'environnement, mais aussi de propriété intellectuelle, de droit à la vie privée. Et parce que ce qui est vendu dans la 5G, c'est la vie connectée en permanence à tout. Et ça, du coup, toutes les associations, vie privée, liberté individuelle et tout ça... se sont mêlés à cette question-là pour faire émerger d'autres questions, des questions de pouvoir aussi autrement que simplement sur le mode de la santé. Et donc ça a un peu changé le débat dans le truc.
On aura peut-être une ou deux dernières questions.
Et la référence à Toby Nathan, d'où elle vient ?
De l'étranger ou le pari de l'autre.
D'accord.
Merci. Page 129.
Moi, c'était un complément. L'actualité de ces sujets des électrosensibles, plutôt sur le front thérapeutique.
Oui.
Parce que justement, en travaillant un peu sur la géobiologie, il y a, il y a quand même un peu cette idée que on peut trouver des manières de couper certains pans de la sensibilité à un moment ou à un autre. Alors, en apprenant, ça peut, enfin, il y a peut-être un apprentissage à faire, ou alors par, des actions thérapeutiques de type stickers, etc. Enfin, transformation de l'endroit
dans lequel on
vit. Est-ce que c'est relayé ou pas ?
Mais donc, alors, il y a deux événements. Donc le texte que j'avais mis, il parle du professeur Bellepomme. Hein, donc c'est le professeur Bellepomme qui est accusé en fait de charlatanisme, hein, parce qu'il dit moi je soigne les gens donc ils sont malades. Et ça c'est la définition même du charlatan. Hein. Si vous soignez les gens et que du coup ils vont mieux, c'est que vous êtes un charlatan. C'est parce que c'est ça la pratique. La médecine, c'est pas comme ça qu'elle définit la pratique de soins. C'est en double aveugle. C'est le test du double aveugle qui doit montrer que statistiquement, parce que les gens guérissent tout seuls, il faut montrer que le médicament ou la pratique de soins que vous avez, elle guérit mieux que le placebo, que ce qu'on appelle le placebo, qui est un objet dans la discipline. Et donc, il y a eu toute cette polémique autour de Bellepomme, qui a même été devant le conseil de l'ordre des médecins, et qui a publié des trucs, et tout ça, mais ça n'a pas pris, en fait, non plus. Donc, ça, pour des tas de raisons. Donc ça c'est un élément en médecine assez intéressant. Il y a un élément qui date d'il y a quelques semaines et qui est assez intéressant, mais j'ai pas encore eu le temps vraiment de m'y intéresser, c'est qu'en fait pour le coup il y a quelqu'un qui s'est vraiment intéressé en psychologie à cette idée de nocebo, donc cette idée d'induire la maladie par la croyance et tout ça, hein, donc le nocebo c'est vraiment ça, c'est vraiment avant qu'on ne vous pique, si on vous dit attention, ça va faire vraiment très 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 mal, en général vous allez avoir plus mal que si on vous dit t'inquiète, tu ne vas rien sentir, ça ne dure que 15 secondes et ça fait juste un tout petit peu mal au début. Donc ça, c'est... Et donc, mais c'est un effet, en fait, de nouveau, c'est... on nomme ça, mais en fait ça ne veut rien dire en fait. Enfin, c'est parce qu'on dit ouais, c'est du nocebo, mais en fait c'est une boîte noire, donc on ne s'y intéresse pas. Alors ce qui est marrant, c'est que dans les psychologues, alors moi je ne suis pas très. Pas très fan de la psychométrie, d'aller voir dans les gens s'ils sont plus ou moins dans telle case, en leur posant des centaines de questions dans des questionnaires et tout ça. Mais le nocebo, c'est vraiment un élément central dans les thérapies cognitivo-comportementales parce qu'on pense qu'en gros, c'est des boucles de rétroaction. Donc si vous pensez que quelque chose va vous faire souffrir et que vous le rencontrez, si vous avez mal à la tête, vous cherchez un peu, vous trouverez bien quelque part une antenne ou un modem ou un téléphone portable, un voisin qui en a un, n'importe quoi. Et donc vous allez vous convaincre et tout ça. Et donc c'est des boucles de renforcement, comme ils disent. Et donc pour le coup, ils ont essayé de voir si effectivement les gens un gars scientifique a essayé de voir, en prenant vraiment très au sérieux la chose, beaucoup plus que je n'aurais jamais pu faire, si ça voulait vraiment dire quelque chose, et qui montre qu'en fait... C'est totalement non concluant. Les gens qui prétendent souffrir d'électrosensibilité ne rentrent pas du tout dans les catégories de maladies psychosomatiques imaginaires, ça auxquelles on attribue d'habitude ce phénomène justement de renforcement négatif. Et donc c'est que ça ne marche pas, en fait. Et il a fallu quand même 20 ans que quelqu'un se dise on va prendre le truc vraiment au sérieux, on va vraiment mesurer. Mais ça se comprend, parce que c'est des phénomènes tellement bizarres à mesurer, dont la construction elle-même est tellement problématique qu'en fait c'est assez étrange même d'amener ça comme argument. Et donc il y a ça un peu comme changement par rapport à ça. Mais de nouveau, hein, les défenseurs, Lafis et tout ça, ils disent tous ceux qui vendent des dispositifs, quels qu'ils soient, sont des menteurs, puisque donc il ne faut surtout pas... tu vois ? Non, mais... Parce que sinon, on crée de la croyance qu'il y a une maladie. S'il y a un médicament, c'est qu'il y a une maladie. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique fait ça elle-même. Hein. Elle définit les maladies par l'effet des médicaments qu'elle découvre. Et là, pour le coup, il y a un exemple très peu genré, mais dans l'autre sens. L'industrie pharmaceutique a découvert la dépression masculine en faisant des essais cliniques sur des populations de gens dépressifs. et ça marchait pas beaucoup mieux que d'autres molécules, donc ça, c'était pas très intéressant, sauf si on isolait statistiquement un groupe d'hommes qui avaient des comportements violents. Et donc on a dit, ça c'est la dépression masculine, donc chez eux la molécule fonctionne mieux, donc on a découvert une nouvelle maladie qu'on va appeler dépression masculine, parce que statistiquement ces gens-là ont une nouvelle molécule qui les soigne mieux. Si vous êtes dépressif et violent, vous souffrez peut-être d'une dépression masculine, les garçons. Et peut-être certaines femmes aussi.
Je vous propose qu'on clôture ce temps de discussion. Je vous remercie tous les trois, Pascal, Julie, Nicolas, Martin, et aussi Emmanuel et Stéphane qui, dans un chant quantique, doivent entendre ces remerciements. On peut continuer à... On peut passer dans l'espace d'à côté, manger ensemble, donc on peut poursuivre ou non ces échanges-ci. Juste pour dire deux choses, les enregistrements donc, vont faire l'objet d'un travail éditorial et vont devenir des podcasts qui seront accessibles dans un futur plus ou moins proche. Et ça vaut le coup, il y a un chouette travail qui est fait de chapeau, enfin d'éditorialisation en fait, de chapeau, de mise en musique et de... Donc voilà, je vous encourage. Donc Jules et Stéphane, Sébastien, sont particulièrement et Cédric, pardon, sont particulièrement investis dessus. Et Louisanne aussi, qui complète l'équipe. Et j'allais vous donner rendez-vous pour le prochain séminaire, mais ce séminaire aura lieu, mais on ne sait pas encore vraiment quand, me semble-t-il. Hein. Mais ce sera sur le care ambiental. Et ce sera vraisemblablement plutôt à la rentrée, donc en septembre-octobre 2022. On sera peut-être encore un peu...
La rentrée académique,
le mois de décembre. Et là, le podcast, en fait, c'est...